Europe 1, il est 6h.
Nous n'avons pas besoin de leçons d'aucun leader à travers le pays, mais nous avons tous besoin de venir ensemble nous exprimer d'une manière qui favorise la cicatrisation des plaies.
Une parole rare ce matin sur Europe 1, celle du chef de la police de Houston. « Gardez votre bouche fermée », avait-il lancé à Donald Trump. Entretien singulier ce matin sur Europe 1. L'enquête sur la mort d'Adama Traoré n'est pas indépendante, dénonce l'avocat de la famille. Il demande que l'inspection générale de la gendarmerie soit dessaisie. Des salariés poussés à démissionner ou à baisser leur salaire en dehors de tout cadre légal. La crise économique pousserait certains patrons à flirter avec les limites du droit du travail.
Il y a bien eu des pressions qui ont été faites. On les a appelés, on leur a envoyé des mails pour qu'ils signe un avenant qui prévoyait, pendant une période déterminée, une réduction de leur salaire.
Dans ce journal, le coup de pouce du gouvernement pour l'apprentissage et puis les récoltes agricoles en Provence, bouleversées par l'apparition de clusters du coronavirus. Les exploitants font tout pour les contenir.
On se sécurise, on va faire des tests. Qui peut savoir aujourd'hui, sur son exploitation, s'il n'a pas eu un travailleur qui a été en contact avec une de ces personnes qui a été infectée? On ne sait pas.
Juste après le journal, mon invité inattendu, le chanteur du groupe Boulevard Désert en concert ce soir en drive-in. Concert face à des voitures, 6h20. Le meilleur et le pire des réseaux sociaux avec Paul Lassène et l'émulation autour de la finale de Koh-Lanta ce soir. Il est 6h01. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Jérôme Lacroix.
Entretien événement ce matin sur Europe 1. Le chef de la police de Houston au Texas, Art Acevedo. Houston où a grandi George Floyd, mort étouffé il y a 10 jours à Minneapolis. Lors de son interpellation par la police, Houston où George Floyd sera honoré lundi. Cérémonie d'hommage avant ses obsèques le lendemain.
Art Acevedo qui a eu cette phrase il y a quelques jours à l'attention de Donald Trump. « Gardez votre bouche fermée », avait-il lancé sur CNN après que le président américain avait menacé d'envoyer l'armée contre les manifestants après des débordements.
Aujourd'hui sur Europe 1, Art Acevedo appelle à l'apaisement.
Nous n'avons pas besoin de leçons d'aucun leader à travers le pays, mais nous avons tous besoin de venir ensemble nous exprimer d'une manière qui favorise la cicatrisation des plaies, qui favorise la confiance, qui favorise la responsabilité et qui automatiquement amène à la paix et à la réconciliation. Il faut aller de l'avant et nous espérons que le président sera dans un discours plus constructif avec le peuple américain. Alors j'espère qu'on pourra s'aimer les uns les autres et en fin de compte arriver à des lois et à une politique qui mettent à l'écart les officiers qui violent le serment de confiance. Parce qu'ils ne sont plus des policiers. Et parce que ceux qui font bien leur travail méritent que l'on fasse tout notre possible pour écarter tous ceux qui violent le code d'honneur de la police américaine.
Et hier soir, à Minneapolis, un premier hommage à George Floyd. La famille, des politiques mais aussi des célébrités rassemblées autour du cercueil à l'université chrétienne North Central. « Tu as changé le monde, George », a dit le pasteur défenseur des droits civiques Al Sharpton dans un émouvant éloge funèbre.
Et partout dans le monde, partout dans le pays, les manifestations continuent avec beaucoup moins de débordements.
Europe 1, il est 6h03.
L'avocat de la famille d'Adama Traoré demande que l'inspection générale de la gendarmerie nationale soit dessaisie de l'enquête sur le décès du jeune homme, mort il y a 4 ans après une interpellation.
Maître Yacine Bouzrou pointe un courrier de soutien envoyé par le directeur général de la gendarmerie nationale aux militaires mis en cause. Le magistrat demande que l'enquête passe aux mains de la police.
Il n'est pas normal que le directeur général de la gendarmerie nationale prenne position en expliquant qu'il a toute confiance. En ce qui concerne l'interpellation d'Adama Traoré, il n'a pas le droit de dire ça car les gendarmes chargés de l'enquête sont sous son autorité. Donc il n'a pas le droit de prendre position et ça porte atteinte à l'enquête judiciaire et surtout à la séparation des pouvoirs. Donc nous estimons aujourd'hui que les gendarmes ne sont plus aptes à diriger l'enquête et nous souhaitons que la brigade criminelle puisse continuer afin que les investigations puissent se dérouler en toute sérénité. C'est une forme de pression non seulement sur les enquêteurs sous son autorité, mais également à l'égard des magistrats. Cela démontre malheureusement ce que nous craignons, c'est-à-dire qu'il y a des pressions dans le cadre de l'enquête. Et donc, aujourd'hui, nous comprenons peut-être pourquoi l'enquête, malheureusement, ne se déroule pas correctement.
Maître Yacine Bouzrou, joint pour Europe 1 par Chloé Triomphe.
Comme les soignants et personnels des EHPAD, les travailleurs des secteurs sociaux et médico-sociaux pourraient aussi toucher une prime exceptionnelle pour leur mobilisation face au coronavirus.
Entre 1 000 et 1 500 euros, souhait du gouvernement qu'Europe 1 vous révèle ce matin.
La crise économique frappe et bouleverse de nombreuses entreprises en France. Pour tenter de s'en sortir, certains employeurs tentent parfois de s'arranger avec le droit du travail, flirtant avec les limites de la loi. Des dérives que dénoncent de plus en plus syndicats et avocats. Simon Rubin.
Dans son cabinet parisien, Emmanuel Gaillat, avocat en droit du travail, reçoit depuis deux mois des centaines d'appels à l'aide de salariés. Parmi les cas récurrents, de plus en plus d'employés dénoncent la pression exercée par leur patron. Dans certains cas, l'employeur profite de la crise pour baisser les salaires en dehors de tout cadre légal.
J'ai bien vu un dossier comme ça où des salariés d'une société informatique se sont vus proposer des réductions de salaire de façon informelle et sans que les instances représentatives du personnel ne soient consultées. Et donc, il y a bien eu des pressions qui ont été faites. On les a appelés, on leur a envoyé des mails pour qu'ils signent un avenant qui prévoyait, pendant une période déterminée, une réduction de leur salaire.
Autres exemples, ce salarié poussé à démissionner par son patron au motif qu'il faut soulager l'entreprise en dehors de tout cadre légal. Ou encore, ces nombreux cas de retard de paie ou ces salariés contraints d'accepter un changement de poste sous la menace d'un licenciement. Des pratiques qui ont cours pour la majeure partie dans les petites et moyennes entreprises.
Il a aussi été question d'emploi hier à l'Élysée. Comment éviter un chômage de masse dans les mois à venir ? Le gouvernement érige en priorité l'apprentissage.
Des centaines de milliers de jeunes pourraient se retrouver sans contrat à la rentrée prochaine, faute de trésorerie dans les entreprises. Carole Ferry, la ministre du Travail, a annoncé une aide financière.
Les entreprises qui acceptent de prendre un jeune en alternance auront le droit à une aide de 8 000 euros sur l'année, 5 000 euros pour les mineurs. Une aide sans condition pour les entreprises de moins de 250 salariés. Pour les autres, il faudra s'engager à embaucher 5 % d'alternants l'an prochain ou bien il faudra rembourser. C'était la mesure la plus attendue. Elle sera mise en place très rapidement, dès le mois de juillet et jusqu'à fin février. Par ailleurs, elle concernera toutes les formations du CAP à la licence pro. L'objectif, c'est vraiment de motiver les entreprises qui avaient beaucoup de mal à s'engager pour la rentrée sans visibilité à long terme. Pour les jeunes qui vont débuter leur année sans entreprise, eh bien normalement, ils ont 3 mois pour en trouver une, sinon ils doivent quitter l'école. Cette année, ils vont pouvoir rester en formation pendant 6 mois, même quand ils n'ont pas d'entreprise pour les accueillir. Enfin, le gouvernement va financer l'achat d'ordinateurs pour faciliter leur apprentissage.
Un mot de l'actualité à l'étranger. On l'apprend ce matin, le chef de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido a trouvé refuge à l'ambassade de France à Caracas. Le président Nicolas Maduro avait laissé entendre il y a 3 jours que son rival se trouvait bien dans une représentation diplomatique.
Europe 1. Dans un tout petit instant, la suite du journal de 6h et un premier cluster de coronavirus découvert chez des saisonniers provençaux.
Et puis certains EHPAD renoncent à organiser la fête des mères dimanche. À tout de suite.
Europe 1, il est 6h09, la suite du journal, Mathieu Béliard, Jérôme Lacroix.
Plusieurs clusters détectés dans le Vaucluse et surtout les Bouches-du-Rhône. Parmi des travailleurs agricoles, au moins une trentaine de malades sur plusieurs sites.
Au sein d'une main-d'œuvre étrangère, qualifiée et recherchée pour la récolte de fruits et légumes, des travailleurs qui pourraient désormais faire défaut en raison de cette situation sanitaire. Comme l'a constaté Nathalie Chevance, à Noves, dans le nord des Bouches-du-Rhône.
Un camping au milieu des champs, c'est là que sont rassemblés 130 travailleurs étrangers, dont une dizaine testés positifs au Covid. Quatorzaine obligatoire pour tous, dans des conditions pas toujours bien acceptées, puisque deux d'entre eux ont voulu s'échapper. Manque de surveillance des services de l'État, c'est ce que dénonce Jean-Philippe Matéki, adjoint au maire de Noves.
Deux travailleurs espagnols qui voulaient rejoindre leur pays. À leur décharge, ils ne sont plus payés. J'imagine qu'on a eu un défaut de pédagogie et qu'on aurait peut-être dû maintenir la présence des médecins ou des psychologues. Ce qu'on déplore, c'est qu'il n'y a aucun moyen alloué pour la surveillance du site. Il peut y avoir d'autres cas, ce qui génère pas mal d'inquiétudes pour les habitants.
Car ces ouvriers travaillent souvent sur plusieurs exploitations, ce qui peut favoriser la propagation du virus. Résultat, quelques 2000 tests sont lancés, ce dont se félicite Patrick Lévesque, président de la FDSEA des Bouches-du-Rhône.
On se sécurise, on va faire des tests. Beaucoup d'employeurs de main-d'œuvre amènent leurs salariés pour se faire détecter. Qui peut savoir aujourd'hui sur son exploitation s'il n'a pas eu un travailleur qui a été en contact avec une de ces personnes qui a été infecté, on ne sait pas.
Et les résultats de tous ces tests seront connus dans les prochains jours. Un épisode dont les agriculteurs se seraient bien passés en pleine période de récolte. Nove, Nathalie Chevance, Europe 1.
Les visites dans les EHPAD, toujours réglementées, mais assouplissement à partir d'aujourd'hui. 2 visiteurs possibles désormais pour les visites en chambre, en extérieur, pas de restrictions. Et même les petits-enfants mineurs peuvent venir, mais seulement équipés d'un masque.
Des maisons de retraite où cette année, la fête des mères, dimanche, sera un peu moins festive. Impossible d'honorer toutes les demandes de visite. Certains établissements renoncent même à organiser l'événement. Il sera alors possible de déposer des fleurs à l'entrée, remises ces fleurs dimanche aux résidentes.
Et justement, cette fête des mères dimanche, les 14 000 fleuristes de France l'attendent impatiemment. Rendez-vous capital. En moyenne, c'est 8 à 10% du chiffre d'affaires de l'année sur cette seule journée.
Bonjour Florent Moreau.
Bonjour.
Vous êtes fleuriste à Saint-Laurent, sur Sèvres, en Vendée, et président de la Fédération française des artisans fleuristes. D'abord, le confinement a été rude pour la profession, on en avait parlé, notamment autour du muguet du 1er mai. Comment s'est passée la réouverture pour vous ? Déjà, est-ce que les clients sont revenus ?
Alors, les clients sont revenus, la réouverture s'est très très bien passée, avec une activité assez forte.
Alors, dans quelle mesure assez forte, c'est-à-dire ?
Alors, c'est-à-dire qu'en fait, les ventes sont au rendez-vous. Alors, les clients, en fait, avaient besoin de se faire plaisir avec des fleurs et de fleurir la maison, de fleurir également leurs proches. Donc, effectivement, on a une période d'activité assez dense et un niveau d'activité assez important.
Alors, vous dites que les clients sont revenus, mais vous pensez que la crise va tout de même laisser des traces, des boutiques pourraient fermer. Est-ce que vous avez déjà eu une idée, une estimation, combien, selon vous, en France ?
Aujourd'hui, effectivement, on a une inquiétude par rapport à certains fleuristes qui pourraient être en danger, aux environs 10 à 15% des fleuristes en France. Alors, pas forcément à court terme, mais plutôt sur moyen terme, donc à 6 mois ou un an. Il y a certaines boutiques, quasiment 10% des boutiques qui pourraient ne pas se relever.
Et donc, si je comprends bien, dimanche, quand on vient vous voir, on achète des fleurs, on fait plaisir à sa maman et on sauve peut-être un fleuriste.
C'est tout à fait.
Merci Florent Moreau, fleuriste à Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée et président de la Fédération française des artisans fleuristes. Merci d'avoir été ce matin en direct l'invité du journal de 6h d'Europe 1.
Et puis les premiers visiteurs sont attendus dès 9h tout à l'heure. Réouverture aujourd'hui du château de Chambord. Port du masque obligatoire et sens de circulation pour la visite. 1000 à 1500 personnes par jour accueillies dans un premier temps. C'est moitié moins que d'habitude.
Merci beaucoup Jérôme Lacroix. C'était le journal de 6h. À 6h30 tout à l'heure, nous serons avec François Geffrier.
La matinale d'Europe 1 avec vous Mathieu Béliard et votre invité à suivre.
Vous savez que j'ai toujours rêvé moi d'aller dans un de ces cinémas américains en drive-in, là, de conduire un pick-up et de pouvoir voir un film sur le siège conducteur de ma voiture.
Ça fait un peu tranquillement.
Ouais, vous savez que ça existe en ce moment. Ça c'est une boîte de nuit en drive-in. Vous aviez peut-être vu ces images, c'était en Allemagne pendant le confinement. Évidemment on respecte les règles de sécurité sanitaire. Bon, moi ça me donne une petite idée de l'enfer quand même. Vous avez la musique dans l'autoradio et les gens qui dansent dans leur voiture et qui appuient, qui klaxonnent, qui font des appels de phare. Ce sera certainement plus doux à Albi. Concert en drive-in ce soir avec Boulevard Désert. Le chanteur de Boulevard Désert est mon invité inattendu dans un instant.
Europe 1, il est 6h15 et c'est l'heure de l'invité inattendu. Votre invité, Mathieu Béliard. Tous les matins, un sujet de l'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler.
Alors, on vous a beaucoup parlé des artistes mobilisés sur les réseaux sociaux pendant le confinement, privés de concerts. Le monde de la musique a usé du système D. Ce soir tient une autre illustration de cette débrouille d'un secteur de la culture qui est en crise. Rendez-vous ce soir sur le parking du Parc des Expos d'Albi, ça ne s'invente pas, hein, pour un concert en drive-in. On assiste au concert depuis sa voiture et on respecte ainsi le protocole sanitaire.
Parmi les artistes de ce concert ce soir, le groupe Boulevard Désert, Mathieu Béliard, le chanteur du groupe, Sylvain Dutu et votre invité inattendu.
Allez reste encore un peu, toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu, toi et moi, faire au mieux.
Bonjour Sylvain Dutu.
Bonjour.
Alors déjà, vous avez été complètement mis à l'arrêt par le Covid, Boulevard Désert, votre tournée en pause jusqu'à l'automne, et vous remontez sur scène ce soir, donc ça démange, j'imagine.
On a des fourmis dans les pattes un peu, ouais. C'est sûr. La tournée, comme vous l'avez dit, la tournée s'est arrêtée vraiment subitement le 7 mars, après les Zéniths de Toulouse. Il manquait une dizaine de Zéniths et beaucoup de festivals. C'est vrai que le confinement, on l'a bien vécu, on a fait des choses, il s'est passé plein de trucs, mais monter sur scène, ça nous manque.
Et vous avez répondu à des confrères d'ailleurs qu'on va saluer ce matin, Radio 100%, une radio du Sud-Ouest, et accepté de participer à un concert drive-in. Au moment où on vous le propose d'abord, vous saviez ce que c'était, que ça existait en concert, le drive-in ?
En concert, non, je l'ignorais, et je ne l'avais jamais imaginé même. En revanche, je me souviens, avec mes parents et mon frère, avoir regardé les visiteurs sur le parking d'un centre commercial en drive-in. Quand j'étais petit, donc ça m'a rappelé ça. J'avais complètement oublié que ça existait pour le cinéma. Mais voilà, ça m'a rappelé ce souvenir et j'ai trouvé ça assez marrant de proposer ça.
Un sarrasin dans une chariote du diable. C'est tout ferré, il y a point de bœuf pour tirer.
Le principe est simple, hein, et il respecte d'ailleurs scrupuleusement les gestes barrières, la distanciation sociale. Expliquez-nous, vous êtes sur scène, comme d'habitude.
Comme d'habitude, on est sur scène. Ce qui change, c'est qu'il n'y a pas d'amplification de son. Ce qui change, c'est que devant nous, ce sont des voitures garées, et le concert est diffusé à la radio, en direct. Donc en fait, les gens regardent le spectacle comme d'hab, et le son sort de l'autoradio.
Et ainsi, ils sont dans leur voiture, donc en sécurité, pas de rassemblement de foule. Simplement, vous jouez sur scène, eux vous voient, j'imagine qu'ils seront très contents ce soir, mais vous n'avez aucun retour du public.
Alors c'est ça, c'est la première fois évidemment, hein, c'est une première, de toute façon en France, ce concert drive-in, on est un peu les cobayes de cette histoire, on va voir comment ça se passe. Évidemment que ce sera très étrange, évidemment qu'on n'aura pas le retour du public, à moins de quelques klaxons. Bon, ça sera rigolo quelques instants. Peut-être des gens sur les toits, ça sera rigolo, ça sera très drôle ça. On va voir comment ça se passe en fait, mais ça va être pour nous quelque chose de très étrange. On le prend comme une expérience à vivre une fois ou deux cet été, c'est sûr.
Je suis comme un grain de sable perdu dans l'océan. J'ai perdu mon cartable, j'ai perdu mes parents. Je suis comme l'eau des courants, fatigue est ignorée. Si je coule dans le vent, si je fais que passer. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent.
Au moins, il y a quelque chose de très original qui se passe. J'ai vu aussi qu'il y avait des rechargeurs, hein, pour les batteries de voitures qui seraient à plat à l'issue du concert en drive-in, tout a été pensé. Pour vous, cela dit, c'est quoi? C'est un décrassage? J'imagine que c'est pas le même concert que d'habitude que vous allez jouer ce soir.
Alors non, pas du tout. Nous, sur le papier, la tournée, vous l'avez dit, reprend en octobre. Évidemment, ce soir, on sera pas avec toute la compagnie Boulevard Désert, tous nos techniciens, toutes nos lumières, notre scénographie. Tout ça, c'est impossible. Vu le contexte, on sera en formule réduite, mais bon, on sera là avec le copain Tibbs et d'autres pour ce concert ce soir.
Tibbs qu'on a reçu d'ailleurs dans le cadre de l'invité inattendu pendant ce confinement. Tiens, le confinement, vous avez un projet d'album issu du confinement.
C'est vrai, dès les premiers jours du confinement, on s'est mis à faire des lives sur nos réseaux sociaux. Et ça on l'a fait tous les jours pendant le confinement, et puis on s'est mis à faire des versions du coup acoustiques ou revisiter des morceaux qu'on connaissait bien. Bruxelles, Emmène-moi, Allez reste, etc. Et je sais pas, enfin si vous avez vu sûrement, il y a eu plein d'échanges pendant le confinement des artistes qui en appelaient d'autres pour partager les morceaux, et en fait c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a revisité nos propres chansons, on les a proposées à des amis, à des artistes. Et c'est ça le projet, qui devrait sortir d'ici la fin de l'année, un projet de duo, donc sur des nouvelles versions d'anciens morceaux.
Pour le concert ce soir, alors c'est le parc des expositions à Albi, jusqu'à 150 véhicules, hein, qui pourront stationner pour assister à ce concert. J'espère qu'on ne mettra pas les SUV au premier rang, hein, pour suivre.
Ni les camping-cars.
Ni les camping-cars, effectivement. Vous avez pu répéter pour préparer ce concert?
Non, on n'a pas répété. On s'est vu une seule fois. C'était avant-hier avec les gars du groupe pour un live sur Facebook. Encore une fois, impossible de faire des répétitions dans des bonnes conditions, etc. Donc on va répéter à la bonne franquette, comme on dit, et on va monter sur scène comme ça, sans pression et avec une grande envie.
Et j'ai vu que si on klaxonne ou si on fait des appels de phare pendant le concert, ça s'appelle des applaudis phares, et c'est ce que vous découvrirez ce soir donc au parc des expos, à l'arrière du parc des expos d'Albi, là où il y a le parking en fait, pour caser ces 150 véhicules qui vont assister à ce concert drive-in ce soir. Merci beaucoup Sylvain Dutu.
Merci, à bientôt.
Et bon retour sur scène à vous et à Boulevard Désert.
Merci.
Boulevard Désert ce matin sur Europe 1, et donc ce soir, hein, le parc des expos d'Albi, le parking, hein, du parc des expos d'Albi pour ce concert en drive-in, 6h22.
Europe 1. À suivre le meilleur et le pire des réseaux sociaux avec Paul Lassen, et pour les internautes, ce soir, c'est la vraie fin du confinement avec la finale de Koh-Lanta.
Vous faites quoi ce soir? Bah oui,
devant
vous êtes devant TF1, c'est sûr.
Europe 1, il est 6h25, vous écoutez Mathieu Béliard.
Et Paul Lassen qui nous a rejoint en studio. Bonjour Paul.
Bonjour Mathieu.
Tous les matins à 6h25, le meilleur et le pire des réseaux sociaux. Et c'est vendredi, ce soir, fin d'un événement qui a tenu les réseaux sociaux en haleine, on peut le dire, pendant toute la durée du confinement.
Oui, un événement qui a bercé le vendredi soir de milliers de Français, de millions même de Français confinés. Après une demi-finale haletante la semaine dernière, ce soir c'est la finale de l'édition 2020 de Koh-Lanta. Et qui dit finale, Mathieu, dit programme de rêve, un programme présenté par Denis Brognard lui-même sur son compte Instagram.
Ça y est, on connaît les trois finalistes de ce Koh-Lanta, l'île des héros. Ceux qui s'affronteront sur les poteaux. Bon, ils sont encore trois aventuriers à pouvoir prétendre à la victoire finale et aux 100 000 euros promis aux vainqueurs. Et à demain, 21h05 sur TF1 pour la finale de Koh-Lanta.
Il sait faire, Denis Brognard.
Mathieu, les fameux poteaux qui ont fait la renommée de l'émission. Mais cette année, encore plus que les précédentes, ce sont les personnages et le scénario qui ont vraiment tenu en haleine les internautes. Cet engouement, il est résumé par le tweet d'un fan de l'émission. Un candidat qui éteint le feu juste avant de se faire éliminer à la première émission. Ahmad, qui manque de se noyer alors qu'il a pied. Inès, qui découvre les fruits. Théoura, qui oublie qu'il a un collier d'immunité et se fait éliminer. Sam, qui est né la même année que l'émission et qui bat tout le monde. Et le régisseur, qui vote au conseil. C'est un beau résumé. Beaucoup d'humour, comme souvent sur les réseaux sociaux, mais aussi, malheureusement, quelques débordements. Plusieurs candidats se sont fait insulter ou menacer de mort comme Inès ou Régis. Des actes largement dénoncés par la majorité des internautes qui, pour la plupart, se sont contentés d'encenser des candidats.
Surtout un.
Un homme au-dessus du lot, c'est Claude. Hommes ou femmes, petits et grands, tous les vendredis soirs sont désormais réservés à la vénération du roi Claude, écrit le site Combini sur Twitter. Une illustration de la vénération des réseaux sociaux pour ce champion. Les larmes de Claude, c'est le futur vaccin contre le Covid-19, écrit un internaute. Alors qu'un autre veut immortaliser sa présence dans l'émission. Pour les prochaines saisons, il faudra tailler le visage du totem pour qu'il ressemble à Claude. Certains proposent même de l'aider s'il ne gagnait pas. Venez, si Claude ne gagne pas, on cotise et on lui offre 100 000 euros. Le Messie du vendredi soir a même été grimé en président de la République, une photo retweetée des milliers de fois.
Ah oui, c'est la preuve de la folie autour de cette saison sur les réseaux sociaux et à la télévision, bien sûr.
Oui, tellement que...
C'est avant tout une émission de télé.
Oui, tellement que TF1 et Twitter ont décidé de surfer sur la vague. Pour plus d'interactions sur les réseaux ce soir, ils ont créé un petit emoji, un petit smiley totem qui sera affiché à la fin du hashtag Koh-Lanta. Un cadeau aux internautes pour la dernière de la saison, un dernier épisode qui, pour beaucoup d'internautes, marque le vrai retour à la vie d'avant.
Un retour qu'ont préparé les internautes.
Oui, avec un hashtag qui a émergé hier. Avant le Covid, on pouvait. Les internautes, du coup, se rappellent au bon souvenir d'une vie qui paraît presque oubliée. Avant le Covid, on pouvait postillonner paisiblement sur la tête des gens, dit par exemple un internaute. Un autre se souvient d'une époque sans masque. Avant le Covid, on pouvait tuer quelqu'un avec notre haleine de poney. Maintenant, on s'auto-asphyxie à cause du masque. Pour d'autres, c'est la nostalgie du vocabulaire d'avant. Avant le Covid, on pouvait passer une journée, un mois, une année entière sans entendre parler du Covid. Avant le Covid, on pouvait passer une journée sans entendre parler de Didier Raoult, dit un autre. Enfin, d'autres terminent avec philosophie. Avant le Covid, on pouvait. Maintenant, on peut.
Ben oui, voilà.
C'est vrai. Je vous laisse réfléchir, Mathieu.
Bon, ça, c'est pour la réflexion. 5 millions de tweets, je voyais quand même. Hein. 5 millions de tweets envoyés depuis le début de la saison de Koh-Lanta. Et ce qui est pratique avec ce rendez-vous réseaux sociaux de Paul Lassen, c'est que si vous n'avez rien suivi du début de la saison, là, ce soir, vous êtes armés pour participer. Peut-être tweeter vous aussi. Merci, Paul Lassen. Il est 6h29 sur Europe 1. Laurent Cabrol est avec nous. C'est l'heure de la météo.
Oui, avec une journée de pluie quand même, mais de pluie beaucoup moins importante et beaucoup moins puissante qu'hier. Alors, nous avons en ce moment même des pluies le long des côtes atlantiques entre Brest et Bordeaux et le long des sur la Seine, carrément, la vallée de la Seine, presque de l'embouchure au Havre jusqu'à Paris. Et ça, les pluies se concentrent dans ce secteur-là. Mais dans l'ensemble, il faut bien dire que nous aurons un temps le plus souvent pluvieux dans l'après-midi sur la Normandie, la Picardie, le Nord, Champagne-Ardenne, région parisienne, Berry et Bourgogne. C'est surtout cet après-midi que les pluies vont se concentrer. En Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes, c'est un régime d'averse. Dans le sud-ouest, le Massif central, la Franche-Comté, la région lyonnaise. Allez, des éclaircies. Et un soleil gagnant sur le bassin méditerranéen et les Alpes du Sud. Et les températures aujourd'hui sont fraîches, très fraîches. Entre 11 et 16 degrés. Elle est fraîche, ma température, elle est fraîche.
Exactement. Merci Laurent Cabrol. François Geffrier est avec nous. Bonjour François.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal à 6h30.
Les entreprises du textile se sont réorganisées, ont adapté leur outil de production et 2 mois après, elles se retrouvent avec des stocks énormes sur les bras.
Face à un virus qui avançait masqué, il fallait faire comme lui et s'équiper de protection. Mais aujourd'hui, entre les commandes géantes à la Chine et la production Made in France, on ne sait plus quoi faire du trop-plein de masques. Information Europe 1, la prime de 1 000 à 1 500 euros étendue à tout le secteur social et médico-social. Détail dans un instant. Nous verrons comment les hôteliers, restaurateurs et musées du Nord se dotent d'un label Institut Pasteur de Lille pour rassurer les clients. Et puis le label France 84, France 98, ça fait toujours rêver les amateurs de foot. Luis Fernandez veut en profiter dans un duel contre le président de la Fédération française.
Penser et préparer le fameux monde d'après, c'est la mission de mon invité Patrick Bernasconi, président du Conseil économique, social et environnemental, juste après ce journal. Avant de retrouver la revue de presse internationale, nous serons en Thaïlande, en Russie et en Tunisie ce matin, 6h31. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On en aurait rêvé il y a 2 ou 3 mois. Trop de masques, des usines françaises qui tournent à plein régime et des avions venus de Chine, les soutes remplies.
Il faut dire qu'il y a eu quasi un effort de guerre de la part d'une centaine de petites mais aussi de grandes entreprises à l'appel de l'État. Mais aujourd'hui, les représentants de la filière que Clément Le Saffre a contacté pour Europe 1 se retrouvent avec du stock sur les bras.
Plusieurs entreprises nous ont informé que depuis quelques jours, il n'y avait plus de commandes qu'elles enregistraient, mais en plus des annulations.
Pierrick Chalvin ne décolère pas. Délégué général d'Unitex, l'organisme qui rassemble les entreprises du textile en Auvergne-Rhône-Alpes, il estime à 450 000 le nombre de masques qui prennent la poussière rien que dans sa région, inconcevable au vu des efforts fournis.
Les entreprises du textile se sont réorganisées, ont adapté leur outil de production, ont pour certaines d'entre elles investi et 2 mois après, elles se retrouvent avec des stocks énormes sur les bras. On a évidemment alerté le gouvernement, qui est quand même un retour de la part de ceux qui ont demandé aux entreprises de se mobiliser.
Et dans le viseur de Pierrick Chalvin, il y a aussi et surtout une commande passée par l'État de 10 millions de masques lavables fabriqués au Vietnam, irrationnel pour lui, mais pas pour Bercy. La France produit actuellement 30 millions de masques en textile par semaine. C'est beaucoup, mais encore insuffisant selon les calculs du ministère. Les Français s'équipent, mais depuis le déconfinement, le renouvellement des masques est plus fréquent. Alors, pour favoriser la production tricolore, le gouvernement incite les particuliers à opter pour des masques en tissu. En effet, ceux en papier vendus dans le commerce sont tous importés, principalement depuis l'Asie.
Et alors qu'on arrive à la fin de la 4e semaine du déconfinement, le président du Conseil scientifique reconnaît ce matin dans le journal Le Parisien qu'on ne pourra pas imposer un nouveau confinement généralisé en France. Mais Jean-François Delfraissy prévient, il y a toujours 1 000 à 3 000 contaminations par jour.
Si on regarde l'historique des grandes pandémies de virus respiratoires, dit-il, vous en avez 5 sur 10 qui récidivent à l'automne. Il faut rester très vigilant.
Dans ce contexte, cette information qu'Europe 1 vous révèle ce matin, après les soignants, ce sont tous les professionnels du social et du médico-social qui pourraient toucher une prime. Info signée Jean-Rémy Baudot.
Plusieurs semaines de discussions ont été nécessaires avec les départements. Ce sont eux qui décideront de verser ou pas ces primes. Mais le gouvernement ouvre la voie à une reconnaissance pour l'ensemble du secteur médico-social qui a fait face à la crise du coronavirus. Tous les établissements pour personnes âgées, le monde du handicap, l'aide sociale à l'enfance, l'hébergement d'urgence ou encore les services pour migrants et réfugiés, tous auront droit en théorie à cette prime. Une circulaire que nous avons pu consulter et qui sera publiée prochainement en dessine les contours entre 1 000 et 1 500 euros, y compris pour les personnels en télétravail. Un geste qui était très attendu par ces professionnels restés en soutien des populations les plus fragiles, même pendant le confinement.
Et notez bien que dans le journal de 7h, nous appellerons Sophie Crozier, neurologue à la Pitié-Salpêtrière, représentante du collectif Interhôpitaux Collectif qui appelle tout de même à une journée de mobilisation.
1 milliard d'euros pour l'apprentissage avec des aides substantielles annoncées hier à l'Élysée pour les entreprises. 8 000 euros pour l'embauche d'un majeur entre le 1er juillet et la fin février de l'année prochaine. 5 000 euros pour un mineur.
Dans le Nord, les professionnels du tourisme, hôteliers, restaurateurs, commerces et musées se dotent d'un label sécurité sanitaire, estampillé Institut Pasteur de Lille.
Oui, l'objectif est simple, rassurer les visiteurs et relancer le tourisme. Lionel Gougelot.
À l'entrée des hôtels, des restaurants, des commerces ou des musées, un logo qui indique que l'établissement respecte les engagements sanitaires édités par l'Institut Pasteur de Lille, désinfection, distanciation ou encore la ventilation, par exemple, dans les hôtels. Daniel Camus, épidémiologiste à l'Institut Pasteur.
Beaucoup d'hôtels, maintenant, ne sont plus avec des fenêtres que l'on peut ouvrir. Il y a des ventilations, donc des recommandations à suivre avec précision, mais qui n'ont rien d'impossible et qui, en fait, quand on les applique, doivent rassurer la clientèle.
Rassurer les futurs visiteurs, c'est l'obsession de Saint-Louis-l'Hivermers, Relais Château, le Clarence à Lille, le label de l'Institut Pasteur va y contribuer.
D'assurer au client qui va rentrer dans sa chambre qu'il est en zone sécurisée. Et donc pour ça, il faut être sûr que la chambre soit complètement désinfectée. Si on a l'Institut Pasteur qui dit, bah voilà, ça c'est bien, je pense que j'irai cette marque, ce label va nous aider.
Car pour le tourisme de court séjour, il y a véritablement urgence. François Navarro, directeur de l'agence d'attractivité de la métropole de Lille.
Nous avons 115 hôtels, des musées, des restaurants qui avaient totalement arrêté. Et l'enjeu maintenant, c'est de repartir. Et donc, on avait besoin de cette caution scientifique-là. Les professionnels du tourisme ont compris leur intérêt surtout.
Avec en plus des opérations promotion chez les hôteliers pour attirer le client et tenter de rattraper le chiffre d'affaires perdu. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Il est 6h35.
Trois infos à l'étranger en bref. D'abord le Brésil qui compte désormais plus de morts du coronavirus que l'Italie. 34 000 recensés au total et près de 1500 ces dernières 24 heures. Les États-Unis avec un moment de silence particulièrement long observé hier soir à Minneapolis en hommage à George Floyd. 8 minutes 46, le temps qu'il avait passé à terre sous le genou d'un policier le 25 mai conduisant à sa mort. Et puis le Venezuela avec l'accusation du ministre des Affaires étrangères du pays qui laisse entendre que la France héberge l'opposant Juan Guaido dans son ambassade à Caracas.
On va terminer avec le foot. Est-ce qu'on va vers un match Luis Fernandez, Noël Le Graët à la tête de la fédération? L'ancien champion d'Europe 84 s'en prend à sa gouvernance.
Et il se dit soutenu par les illustres représentants des générations 84 et 98 de l'équipe de France. Luis Fernandez qui réclame une meilleure représentation des anciens.
Dans ce bateau, il manquait un grand chef, un grand patron. J'ai pris le téléphone, on en a parlé avec ceux de 84 comme ceux de 98, et on a discuté, on a échangé, puis voilà. Puis on veut, dans les prochaines élections, que ce soit la Ligue ou que ce soit à la Fédération française, on a envie d'avoir une place, on a envie qu'on puisse nous intégrer, parce que jusqu'à présent, on n'a pas ce sentiment-là. J'ai entendu beaucoup de présidents s'exprimer, j'ai entendu des syndicats s'exprimer, j'ai entendu « non, c'est pas comme ça ». C'est un seul qui le donne, en ayant eu avant une certaine concertation. Et c'est pour ça qu'on n'a pas donné la bonne image. On demande à une équipe de football sur un terrain d'avoir un état d'esprit irréprochable. Ça n'a pas été le cas là. La fédération ou la ligue, chacun cherchait à défendre ses intérêts. On doit le faire différemment. Je sais très bien qu'aujourd'hui, le football, c'est le business, c'est le marketing, c'est le merchandising. Oui, on en a besoin de cela. Mais on a aussi besoin de, tu sais, des valeurs, qu'on puisse se penser collectif.
Le programme de campagne de Luis Fernandez, joint par Jean-François Pérez pour Europe 1.
Ça peut être un sacré match. Hein. Noël Le Graët, Luis Fernandez, pour le coup, on va surveiller ça de très près. Merci François Geffrier. C'était le journal de 6h30 à 7h tout à l'heure. Nous retrouverons bien sûr Hélène Zélani.
Les réponses à vos questions de droit sur Europe 1, on retrouve notre expert juridique Roland Pérez.
Bonjour Roland.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le télétravail, le fameux télétravail, mis en place massivement pour cause de confinement, obligatoire des salariés. Ce télétravail a mis en lumière la question des contrôles à distance du temps de travail de ces salariés, avec l'installation, disons clairement, Roland, de logiciels espions. Est-ce que c'est légal ?
Non, présenté ainsi, Mathieu, quand on sait combien la vie privée des Français fait partie des droits intangibles, je vais vous répondre par la négative. Hein. Je vais vous apporter toutefois des exceptions. Et c'est d'ailleurs la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui veille très prudemment sur ces pratiques qui doivent rester exceptionnelles. Alors, en synthèse, si l'employeur souhaite espionner son salarié qui ne travaille plus sous ses yeux, et pour cela installer un logiciel de surveillance à distance du temps de travail et de la consistance de ce travail, il doit évidemment en informer préalablement le salarié via les instances représentatives ainsi que le comité social économique, vous savez, qui est l'ancêtre du comité d'entreprise. Et puis ce contrôle doit être justifié et pas disproportionné aux tâches confiées. Par exemple, pour une standardiste ou une assistante placée en télétravail, un logiciel de surveillance serait parfaitement injustifié. En fait, installer un logiciel qui permet de pointer via un ordinateur professionnel la présence et la connexion du salarié, la densité de son travail ou pour préserver la sécurité des données consultées, pourquoi pas? En revanche, surveiller, collecter des éléments personnels et privés du salarié pour ensuite justifier de son licenciement, c'est illégal, voire totalement punissable. Très concrètement, ce que dit la CNIL en la matière, c'est que l'employeur ne saurait exercer un contrôle général et permanent de l'activité des salariés dont la vie privée ne s'arrête pas nécessairement à la porte de l'entreprise.
Et donc, Roland, ce mode de surveillance qu'on appelle les keyloggers, qui permettent d'enregistrer à distance toutes les actions accomplies sur un ordinateur, vous confirmez, c'est illicite et que risque un employeur qui y aurait recours ?
Alors, sauf circonstances exceptionnelles liées à un fort impératif de sécurité, ce mode de surveillance, je vous le confirme, Mathieu, est bien illicite, sauf en raison d'un, encore une fois, de ce fort impératif de sécurité. Et côté sanctions, il est question d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende, outre les recours habituels au Conseil des prud'hommes et à l'inspection du travail.
Merci Roland Pérez. Une question de droit qui trouve une réponse tous les matins sur Europe 1 avec notre expert juridique Roland Pérez, juste après le journal de 6h30. Tous les jours, il est 6h40.
La matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit le PDG du groupe Aéroport de Paris, Augustin de Romanet. Et il est question à la fois d'économie, un secteur industriel en crise, le secteur aérien, mais aussi du tourisme, tout simplement de vos vacances. On va en parler à 8h15 tout à l'heure. Pour l'heure, comment préparer le monde d'après? Celui que l'on veut plus vert, plus vertueux, plus solidaire aussi. La réflexion sur le monde d'après, confiée notamment au président du Conseil économique, social et environnemental. Mon invité, Patrick Bernasconi, dans quelques toutes petites secondes.
La matinale d'Europe 1, il est 6h42. Votre invité, Mathieu Béliard, c'est Patrick Bernasconi, président du CESE, le Conseil économique, social et environnemental.
Bonjour Patrick Bernasconi.
Bonjour.
Et merci d'accepter notre invitation en studio ce matin. Parmi les premiers invités qui reviennent en studio, ça nous fait plaisir. Avec vous ce matin, on va écouter le monde changer. C'est le slogan d'Europe 1 qui interroge une autre expression très à la mode ces dernières semaines, le monde d'après. Alors avant de parler de votre travail dans les semaines à venir, simplement, est-ce que cette expression monde d'après, elle n'est pas déjà un petit peu galvaudée?
Moi, c'est une expression qui m'a toujours mis un peu mal à l'aise, parce que de toute façon, les fractures qui sont à l'œuvre dans notre pays, on les connaît, et il y a déjà beaucoup de travail qui est fait dessus. Que ce soit les fractures climatiques, que ce soit les fractures territoriales, tous les sujets qui tournaient autour de l'hôpital, ce sont des sujets évidemment qu'on connaissait bien et sur lesquels les gens travaillaient. Évidemment, la crise va sûrement servir d'accélérateur sur ces sujets. Et évidemment, on va apporter une attention supplémentaire à la façon dont on peut essayer d'envisager cet avenir.
Mais pour envisager l'avenir, il va falloir résoudre les problématiques du monde d'avant, si je vous suis bien.
Bien sûr.
Emmanuel Macron a promis de se réinventer. Il va intensifier ses consultations afin, je cite, de faire des propositions aux Français entre le second tour des municipales le 28 juin et le 14 juillet. Timing assez serré. Hein. D'ici là, il vous a confié la mission de la réflexion à vous et au président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Qu'est-ce qu'il vous a dit Emmanuel Macron lorsque vous l'avez rencontré dans le secret du palais de l'Élysée, si j'ose dire? Qu'est-ce qu'il attend vraiment de vous et donc de ce monde d'après?
Chacune des assemblées a sa spécificité. La nôtre a la comme spécificité de réunir les 80 plus grandes organisations de ce pays. Et nous faisons remonter depuis déjà quelques mois tout ce qui nous revient du terrain à travers ces organisations. Donc on a une vision à 180 degrés à travers les différentes associations membres du CESE. Nous les faisons remonter à l'exécutif. On leur remet toutes les semaines un rapport de ce qui nous revient du terrain. À partir de là, et c'est ce qu'ils nous demandent, c'est d'essayer de faire sortir les 3-4 sujets très importants sur lesquels demain on doit vraiment travailler, proposer des choses. Voilà, c'est prioriser les choses et essayer de dégager les consensus, les pistes d'action dans les semaines qui viennent. C'est le travail en tout cas sur lequel nous on va s'engager. Alors on va le faire à travers les remontées des organisations, à travers le travail du CESE aujourd'hui qui est entrepris, parce que nous essayons évidemment de se poser les bonnes questions pour ce fameux monde d'après, à travers aussi toutes les consultations citoyennes que l'on a pu organiser par ailleurs. On a en charge par exemple la mise en place d'une plateforme, la plateforme des plateformes. On travaille avec la direction interministérielle de la transformation publique pour créer la plateforme des plateformes de consultation publique. Voilà, on aura un matériau très important pour faire émerger les 3-4 grosses priorités du moment sur lesquelles il va falloir dégager des consensus et essayer de rapprocher les différentes lignes.
Et je vous cite, hein, pour le travail du CESE, vous parlez d'un trait d'union entre les citoyens et le pouvoir. Parce que les citoyens, pour le coup, ils ont de l'ambition sur ce monde d'après. Quand on les lit, quand on les écoute, comme nous ici aussi au 39-21, plus écologique, plus solidaire, on parle de changer notre manière de travailler, de consommer. À un moment, Patrick Bernasconi, ça va quand même se heurter à des réalités plus dures, la crise économique qui arrive notamment.
Bien sûr. Il est vrai que cette crise sanitaire va déboucher sur une crise économique, mais au-delà de la crise économique, elle va surtout déboucher sur une crise sociale. évidemment, le chômage va monter, donc il va bien falloir apporter des solutions, trouver les moyens des transitions et surtout d'envisager les sujets sur lesquels on devra porter une attention. On parle par exemple beaucoup de relocalisation, de souveraineté dans le domaine alimentaire, sur le domaine industriel. Comment on peut faire, par exemple, cette relocalisation, cette réindustrialisation?
C'est vraiment le comment, parce que j'allais vous demander des initiatives sur le monde d'après, il y en a plein depuis quelques semaines. Je prenais parmi d'autres, cette consultation qui a été lancée par la Croix-Rouge, le WWF et le site make.org, 165 000 participants, manger mieux local en taxant les kilomètres parcourus, développer les mobilités douces, végétaliser les villes. Je cite quelques-unes des propositions de cette initiative-là. Finalement, on connaît les solutions. La question, vous dites, c'est comment on les met en place.
La question, c'est de dégager un consensus, un compromis. Et le CESE, c'est un formidable outil pour cela, puisqu'on a à l'intérieur le monde économique, le monde social, le monde environnemental qui est représenté, toutes les associations y sont présentes. Donc on est capable de construire ces compromis dans une enceinte comme celle du CESE et de donner au pouvoir politique, à l'exécutif, la vision qu'a la société civile, organisée et non organisée, sur un certain nombre de sujets, et en tout cas ce qu'elle est capable d'avoir comme compromis, comme consensus. C'est à mon avis un élément extrêmement important pour pouvoir derrière prendre les bonnes décisions.
Fin juin, vous devez remettre un diagnostic de sortie de crise au président de la République. À vos yeux ce matin, quelles sont les urgences ?
Alors, les urgences, on en connaît quelques-unes. J'ai évoqué tout de suite la souveraineté
économique,
la réindustrialisation. On voit bien que c'est un sujet qui a beaucoup tourné sur les réseaux, dans les pétitions. C'est un sujet important. Et la solution n'est pas si simple que cela. Donc, faut vraiment.
Non, parfois, la question est plus facile que la réponse. On
souvent,
est d'accord.
C'est pour ça qu'il faut travailler et proposer des choses cohérentes. Après, il y a des sujets liés à la pauvreté, aux fractures, évidemment, qui se sont accentuées dans cette période de crise. Et là aussi, il faudra y porter une attention. On a vu aussi un gros sujet monter avec les jeunes. Des jeunes qui se sont retrouvés dans une extrême difficulté sur les plateaux étudiants. Donc là, il y avait aussi une attention particulière à regarder. Donc il y a le sujet de la santé, évidemment. Là. Et nous, aujourd'hui, on est en train de travailler sur ce sujet de la santé. En début d'année, on avait vu monter, émerger un certain nombre de pétitions sur ce sujet. On avait décidé au Conseil économique, social et environnemental de s'en saisir. On s'est rapproché évidemment des pétitionnaires, par exemple du collectif Interhôpitaux. Et on travaille aujourd'hui à ce sujet. On a mis en place une plateforme de consultation en l'espace de 15 jours. On a eu plus de 30 000 participants, 3 300 propositions et plus de 200 000 votes.
C'est un outil.
En l'espace de 15 jours.
C'est un outil, le CESE. Il faut que les citoyens l'entendent ce matin sur Europe 1. C'est un outil de la démocratie, faire remonter des propositions notamment. On verra ensuite ce que le pouvoir politique choisira de faire de ces propositions. Est-ce qu'il y aura un texte de loi, des décrets, peut-être un référendum? Je rappelle aussi, parce que c'est sous votre égide que travaille la Convention citoyenne pour le climat, qu'elle n'est pas enterrée avec le Covid. Dernière session, 19 au 21 juin.
Tout à fait.
Les conclusions très attendues, justement, ça va rejoindre la question.
Des conclusions attendues. La présence du président de la République est aussi attendue. Il a promis de venir écouter le résultat de cette convention. C'est un exercice démocratique assez exceptionnel qui s'est passé au CESE. Et c'est important. Et c'est important que ces exercices démocratiques, institutionnels, dans lesquels on fait des consultations plus larges que les simples organisations
les organisations classiques.
Classiques qui présentent au CESE, qu'elles soient un peu plus larges. Mais c'est important que ce système-là soit tout à fait institutionnalisé pour permettre justement une sortie institutionnelle et pour permettre que demain, ça trouve sa place dans la loi. Que les deux
de
autres assemblées puissent reprendre ces travaux. Sinon, ce sont des expressions individuelles qui ne peuvent pas faire à mon sens.
Merci beaucoup Patrick Bernasconi. On va suivre ici ces travaux justement qui sont lancés. Ça va aller très vite. Patrick Bernasconi était notre invité, le président du Conseil économique, social et environnemental. Merci beaucoup.
Merci bien.
Il est 6h49. Vous êtes sur Europe 1.
Qu'est-ce qui fait la une à l'étranger? La revue de presse internationale sur Europe 1.
La Thaïlande, la Russie et la Tunisie au programme. On va faire un tour en Allemagne aussi. À tout de suite.
6h51, vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1 et c'est la revue de presse internationale.
Notre réseau de correspondants sur tous les continents, nous démarrons ce matin en Thaïlande avec Carole Izou. Bonjour Carole.
Bonjour Mathieu.
De quoi est-ce qu'on parle en Thaïlande ?
Ici, on parle d'un jeune soldat qui accuse ses supérieurs de détourner de l'argent public, du jamais vu en Thaïlande où l'armée est toute puissante et au-dessus des lois. C'est dans les colonnes du très influent quotidien réformateur Matichon que le jeune sergent formule ses accusations et en appelle à la protection d'un groupe parlementaire dédié aux droits humains. Le site du journal a également publié une vidéo où l'on voit l'un de ses supérieurs le menacer. « Tu t'en sortiras peut-être cette fois-ci », lui dit-il, « mais il n'y aura pas de prochaine fois ». L'affaire témoigne des ratés de la grande opération Main Propre lancée par le chef des armées il y a quelques mois, après une tuerie dans un centre commercial perpétrée par un soldat excédé par les abus de sa hiérarchie. Le général avait alors encouragé les militaires à dénoncer les mauvaises pratiques. Plus facile à dire qu'à faire, l'armée, très liée à la monarchie, est toujours intouchable.
Carole Izou en Thaïlande, Elena Voloshin est à Moscou pour Europe 1. Bonjour Elena.
Bonjour Mathieu.
De quoi est-ce qu'on parle en Russie ?
Alors l'un des sujets à la une cette semaine, c'est la nouvelle date à laquelle Vladimir Poutine a appelé les Russes à voter pour sa réforme de la Constitution, le 1er juillet. Elle prévoit rien moins cette réforme que de remettre à zéro ses compteurs présidentiels lui permettant de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2036. Une vidéo incitant les Russes à voter oui fait scandale, on y voit un couple gay adopter un enfant. Est-ce pour cette Russie-là que tu voteras ? Décide de ton avenir, vote les amendements à la Constitution, clame cette vidéo. Le service russe de la BBC note que YouTube l'a retiré la jugeant discriminante. Un autre clip de campagne publié par la chaîne de télévision pro-Kremlin RT, cette fois, met en scène des personnalités célèbres appelant elles aussi à voter oui. Coup de théâtre, l'une d'entre elles, un designer, Artemy Lebedev, s'est désisté peu après la mise en ligne, disant que le tournage avait eu lieu avant l'annonce de l'annulation des mandats de Poutine, qu'il a été dupé et que finalement, donc, il n'ira pas voter pour cette réforme.
Merci Elena. Gabin Télène est en Tunisie pour Europe 1. Bonjour Gabin.
Bonjour Mathieu.
Qu'est-ce qui fait la une chez vous ?
À la une de la presse tunisienne, c'est l'ouverture des frontières aux touristes à partir du 27 juin. Mais avant de rentrer sur le territoire, les visiteurs devront montrer un test négatif au Covid-19. D'après le site d'information Capitalis, c'est ce qu'a affirmé la directrice de l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nisaf Benalaya. Un soulagement pour les 11 000 hôtelières et hôteliers du pays. Le tourisme est un pilier de l'économie tunisienne. Il représente 14% du PIB, selon la presse.tn. Beaucoup moins touché que ses voisins, pour le moment, on compte 1087 cas positifs, 49 décès et 968 guérisons. En relançant son tourisme avec prudence, la Tunisie veut éviter les cas de Covid-19 importés après l'ouverture de ses frontières.
Merci Gabin Télène. La Tunisie après la Russie et la Thaïlande. Et j'ajoute ce matin un petit extrait sonore de l'actu internationale. La télévision allemande, la ZDF, Angela Merkel, à qui on pose une question, la tentation d'un cinquième mandat. Non. Non, vraiment ? Non, vraiment pas, dit Angela Merkel. Il n'en est pas question, vous l'entendez, en allemand évidemment sur la ZDF. C'est non, l'Allemagne, tiens, avec l'éclairage écho de Nicolas Barré, le plan de relance allemand qui creuse l'écart avec la France. Hein. C'est dans le journal de 7h tout à l'heure. Votre fenêtre ouverte sur tous les continents avec notre réseau de correspondants. C'était la revue de presse internationale.
Europe 1. Dans un instant, la météo avec Laurent Cabrol et le journal de 7h. 6h58, Mathieu Bellière sur Europe 1.
Vendredi matin, et on démarre la journée ensemble sur Europe 1. Vous écoutez Le Monde Changer. On va écouter aujourd'hui le pays ouvrir ses portes, ses fenêtres progressivement. Vous faites quoi ce week-end ? Le château de Chambord qui rouvre ses portes aujourd'hui. Le domaine de Versailles demain à 7h40. Je reçois Catherine Pégard, présidente de l'établissement public du château, du musée, du domaine national de Versailles. Situation économique compliquée hein, à Versailles. Après le week-end, vous préparez peut-être vos vacances à 8h15. Sonia Mabrouk reçoit Augustin de Romanet, le PDG d'Aéroport de Paris. Et puis enfin, notez ce rendez-vous. À 8h30, je reçois cet homme.
Laissez-moi juste dire au président des États-Unis de la part des chefs de la police de ce pays, s'il vous plaît, si vous n'avez rien de constructif à dire, fermez votre bouche.
Le chef de la police de Houston, au Texas, personnage atypique qui appelle à l'apaisement, qui manifeste aux côtés des Américains et qui a la tâche d'organiser la sécurité autour des funérailles de George Floyd, sans doute l'homme au monde qui connaîtra la plus grande pression du week-end, Art Acevedo, Houston Police Chief. À 8h30 sur Europe 1 ce matin. 6h59, Laurent Cabrol est avec nous. C'est l'heure de la météo.
Eh oui, nous avons basculé vers la fraîcheur, vers l'humidité. Tout ceci maintenant nous colle à la peau et cela va durer pratiquement jusqu'à mercredi prochain. Ensuite, nous aurons une petite poussée orageuse, donc des températures qui vont remonter. Mais nous ne pouvons espérer un changement de temps à partir de pratiquement jusqu'au 15. Hein. En ce qui concerne les températures de ce matin, 10 à Alençon, 11 à Caen, 12 à Strasbourg et Paris, 13 à Nantes, 14 à Lyon, 16 à Nice. Vous voyez qu'elles ont bien baissé depuis ces jours derniers. Ce sont les températures matinales. Et dans la journée, elles seront guère plus élevées, entre 16 et 20 degrés. Là, en Normandie, Picardie Nord, Champagne-Ardenne, région parisienne, Bourgogne, Berry, Lorraine, Alsace, eh bien, nous aurons une bonne compagnie, c'est la pluie. Elle sera là une bonne partie de la journée. En Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes, une pastille d'averse. Allez, oui, on peut espérer quand même que les pluies seront un peu plus espacées. Sur le sud-ouest, comme le Massif central, la région lyonnaise, nombreux nuages, un petit brin de lumière. Et puis du soleil, beaucoup de soleil sur le bassin méditerranéen et la vallée du Rhône. Voilà.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. Hélène Zellani nous a rejoint. Bonjour Hélène.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, on écoute Le Monde changer.
Il est 7h.